L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, l'émission aura pour thème la littérature New Romance. Je suis accompagnée pour la construction de cette émission par Mathilde Dizière. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Donc Mathilde termine ses études en master métier du livre et de l'édition, c'est bien ça?
Tout à fait.
Donc où en êtes-vous de ce master?
Eh bien, je suis actuellement à la fin. Et je suis donc en stage à la librairie L'Épluche Livre pour faire mon stage, pour valider du coup mon master.
Très bien. Donc je suppose, Mathilde, que vous lisez.
Oui.
De la New Romance.
Entre autres, oui.
Entre autres. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre?
Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de s'imprégner d'un univers qui n'est pas forcément le nôtre. Ça permet... du coup, de s'ouvrir à de nouvelles choses et de rêver, en fait, de s'évader concrètement.
Donc, comme une littérature au sens large du terme, comme vous ouvrez un roman de New Romance, c'est comme si vous ouvriez un roman tout court.
Exactement.
D'accord. Donc, l'idée de cette émission étant de présenter ce genre littéraire qui est devenu un genre à part entière. Alors, moi, je commence à être un peu vieille maintenant. Moi, New Romance, au début, quand ça a démarré en 2020-2021, où vraiment ça a commencé à se développer un peu plus en librairie, quand on me décrivait ça, je voyais la collection Harlequin, la fameuse collection Harlequin que lisait et que lit toujours ma mamie. Est-ce que vous connaissez déjà cette collection? Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, la collection blanche de chez Harlequin, je la trouvais également chez ma grand-mère et j'en ai lu quelques-uns.
Et alors, il y a une grande différence?
Alors, ça c'est un type de romance qui est un peu particulier, qu'on appellerait plutôt de la romance contemporaine. Après, depuis, la romance s'est beaucoup diversifiée et sont apparus beaucoup de nouveaux en fait, sous-genres de la romance.
Alors, c'est ça aussi qui est assez... D'un point de vue professionnel, d'un point de vue libraire, c'est ça qui est assez déstabilisant, puisqu'en librairie, donc, nous avons des rayons par grand domaine littéraire. Donc on va avoir ce qu'on appelle la littérature blanche, qui est la littérature de roman, la grande littérature, que ce soit des classiques ou du contemporain, mais c'est de la fiction romanesque. On va avoir tout ce qui est littérature de genre, donc SF, littérature, donc, on appelle aussi littérature noire, mais qui est finalement de la littérature de genre, donc assez codifié finalement. La romance aussi a énormément de codes et c'est justement ce que vous allez m'apprendre aujourd'hui parce que
oui.
Je crois que là il va me falloir réviser un petit peu.
Mais il n'y a pas de souci. Ben, je propose déjà de commencer par un petit point historique par rapport à la romance en général. La romance, ça vient en fait d'Angleterre. C'est, le terme romance, en fait, c'est un anglicisme qui vient... du terme romance novel, qui voulait dire roman d'amour, justement.
D'accord. Et nous, donc, on dit bien new romance, ou on dit romance?
Alors, on dit plutôt romance. La new romance, ça serait plutôt, en fait, un sous-genre aussi, également, de la romance.
Oula, d'accord. Je ne vous coupe plus.
Je suis tout de suite. Et alors, donc, une des premières romances qu'on va retrouver, ça va être le roman Pamela ou la vertu récompensée, en 1740, déjà, de Samuel Richardson. Puis après, sur des choses que tout le monde connaît, on va avoir Jane Austen avec ses romans comme Orgueil et Préjugé, par exemple. Donc là, on est vers 1813. Et un autre grand moment, ça va être la création par Georgette Heyer de la romance historique. Et en fait, petit à petit, ça va se populariser, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça va être surtout lu par des femmes, mais un petit peu... de façon cachée, parce que c'est un petit peu honteux de lire de la romance, voilà.
Dès le départ?
Oui.
D'accord.
Et après, du coup, surtout ces dernières années, ça s'est beaucoup développé. Il y a de nombreuses maisons d'édition qui lancent justement leur propre collection de romances. Donc voilà, ça a pris, c'est devenu un véritable phénomène.
D'accord. Et c'est devenu un véritable phénomène. Alors, en effet, notamment en librairie, puisque au niveau des chiffres, selon donc GFK, qui est une société pour la recherche et la consommation, donc qui nous donne des chiffres de marché. Je rappelle, la new romance en librairie, ça a vraiment débarqué, ça s'est vraiment implanté en 2021. Et on est sur 2023-2024 à 7,6 millions d'exemplaires de romances vendus en France. C'est juste énorme, puisque le moindre roman de grandes autrices, alors vous allez nous parler aussi un petit peu des grands noms, on va surtout parler d'autrices finalement, il y a très peu d'auteurs.
Oui.
On démarre toujours des ventes à 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires, c'est déjà énorme en soi. Et quand c'est un démarrage de vente et qu'on s'attend à ça de toute façon pour toutes les ventes, c'est assez déstabilisant.
Oui, et c'est un phénomène qui s'est surtout développé via les réseaux sociaux, notamment avec ce qu'on appelle le Bookstagram et le BookTok.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce sont deux phénomènes, en fait, où ce sont des créateurs de contenu qui s'appellent, qui s'auto-appellent BookTokers et Bookstagrammeurs. Donc, ça se passe sur Instagram pour le Bookstagram, où, en fait, ce sont des auteurs qui vont créer, en fait, leur profil où ils parlent exclusivement de littérature, de ce qu'ils ont aimé, de ce qui marche. Et ils vont faire la même chose sur le réseau TikTok avec, du coup, BookTok.
Alors, ce sont des auteurs ou des créateurs de contenu ?
Ce sont des créateurs de contenu, mais il y a aussi des auteurs qui peuvent le faire pour promouvoir justement, par exemple, leur roman.
D'accord. Donc, il y a un côté influence, finalement.
Oui,
influence,
tout à fait, oui.
Influence sociale. De ce qui... Et donc, est-ce qu'on peut dire... Alors là, on sort un petit peu de la romance, mais ce fameux titre que certainement... Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont entendu parler. La femme de ménage, de Frida McFadden. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage qui a été propulsé par ce réseau d'influence que sont les bookstagrammeurs, les instagrammeurs ?
Oui, tout à fait. Oui, et c'est un roman qui en a grandement profité aussi. Tout à fait, oui.
Ok. Et au niveau des grands noms donc, de ce rayon en tant qu'autrice ou en tant qu'auteur, est-ce que vous pouvez nous aiguiller un petit peu ?
Dans la romance, on entend beaucoup parler par exemple, de Morgane Moncomble,
ouais.
Qui a eu un grand succès, par exemple, avec sa série de livres qui s'appelle Seasons,
ouais.
Donc, qui est une série de 4 livres qui retrace chacun l'histoire d'une amie, parce qu'elles sont un groupe d'amis de 4, en fait. Et chacune va avoir son roman dédié avec sa propre histoire. Mais toujours en liant tout le monde, donc c'est très intéressant.
Et Morgane Moncomble, est-elle une autrice française ?
Alors, oui.
Oui, donc il y a des auteurs français, étrangers en new romance, à part égale, ou est-ce qu'il y a quand même une prédominance du monde anglo-saxon ?
Il y a quand même une grande dominance du monde anglo-saxon, et de toute façon, ça vient de là-bas, donc c'est assez répandu, notamment là-bas. Et beaucoup d'auteurs aussi... qui viennent des États-Unis, ce genre de choses, voilà.
Ok, donc Morgane Moncomble, on parle d'une quadrilogie principale,
oui.
La plus connue,
oui.
qui est sortie complètement là, ça y est ?
Oui, le quatrième tome de cette quadrilogie sort justement bientôt le dernier en poche.
Le dernier en poche, donc ouais. Il a déjà paru en grand format.
C'est ça.
Et donc là, on parle, un peu comme dans 4 filles et un jean, entre guillemets, d'un groupe de copines,
c'est ça.
Et là, elles vont rencontrer l'amour. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle va être la trame narrative, finalement ? Quel va être l'enjeu de ces romans ?
Alors, en fait, dans chacun des romans, on suit une fille en particulier, avec bien sûr l'apparition de ses copines à un moment ou un autre dans le roman, puisque leur amitié compte beaucoup à leurs yeux. Et à chaque fois, en fait, comme vous l'avez dit, ça va surtout tourner autour de l'amour. Du coup, chacune va rencontrer sa propre problématique autour de l'amour. Dans le premier, par exemple, c'est l'histoire du coup de... Que je dise pas de bêtises. De Camélia. Qui a donc fait des études pour devenir avocate. Et un jour, elle va se retrouver confrontée à une affaire en tant que stagiaire où elle va devoir défendre un garçon qui... qui fait partie du coup de ces anciens harceleurs. Ouais. Donc c'est pas toujours en fait des thèmes faciles. À chaque fois là, dans chaque roman, il y a des fois des problématiques qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Après, on voit beaucoup maintenant dans les romances, ils ont tendance à mettre un petit disclaimer au début pour dire il y a telle ou telle chose qui peut heurter, suicide ou ce genre de choses.
D'accord. Donc, pour Morgane Moncomble, et donc c'est Un été pour te retrouver, c'est ça ?
Un automne pour te pardonner.
Un automne pour te pardonner.
Ils ont chacun un titre.
Un hiver.
Pour te résister.
Pour te résister.
Il y a un printemps pour te succomber.
Ouais.
Et un été pour te retrouver.
Ok. Et donc, à chaque fois, un personnage différent, des sujets abordés différents. Exactement. Toujours quand même autour d'une relation amoureuse.
Oui.
On parlera en deuxième partie d'émission des sous-genres dans la romance, entre guillemets. Ça s'appelle autrement, mais vous allez nous expliquer tout ça. Et il peut y avoir donc d'autres sujets abordés par le biais de la relation amoureuse, de la relation romantique, qui sont des sujets qui peuvent être de quel ordre ? Personnels, familiaux, sociaux, des difficultés de quel...
Ça peut être un petit peu de tout ça, puisqu'on peut avoir des romances, par exemple, il y a pas mal de romances, par exemple, qui tournent autour d'un personnage masculin qui serait milliardaire ou millionnaire, ce genre de choses, et qui, du coup, sauverait la fille de son milieu social un petit peu bas. Donc voilà, ça peut tourner autant autour du social qu'autour de... un parent célibataire ou un divorce qui s'est mal passé.
Mais, alors, pourquoi des disclaimers, en fait ? Parce qu'un disclaimer, finalement, c'est un avertissement pour public averti, c'est bien ça ?
Oui.
Donc, c'est l'éditeur qui met ça en place sur la quatrième de couve ou dans les toutes premières pages du livre, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
Et alors, pourquoi ce besoin en romance ? Il n'y a pas ça ailleurs en littérature ?
Eh bien, parce que comme la romance s'est énormément démocratisée, de plus en plus de jeunes personnes, et notamment surtout, on le sait, de jeunes filles.
Parce que c'est un public féminin qui est visé. Là, il y a un public cible qui est très bien identifié, notamment au niveau marketing. On peut en parler là aussi. Là, pour le coup, c'est super chouette, je trouve, parce que la romance a revalorisé le livre-objet. À revaloriser les belles couvertures, les reliures, les jaspages, les décorations intérieures, les petites illustrations, la finesse dans l'objet livre et les jolis papiers. Donc il y a souvent, comparé à un livre du rayon romance, une version donc brochée classique comme tous les romans grand format et une version reliée collector. Donc qui se font un petit peu de l'œil dans le rayon et là-dessus ça s'étend un petit peu aussi à d'autres littératures. Je repense aussi à Actes Sud qui réédite des textes notamment de Laurent Godet ou de Nancy Houston dans ces codes-là, donc d'ouvrages cartonnés, enfin du moins en dur et non souple avec un beau dos relié, enfin quelque chose de solide et vraiment pour les bibliophiles. Où est-ce que je voulais en venir avec mon histoire? Oui, le public cible. Et donc là-dessus, comme vous l'avez présenté au début de l'émission, c'est un public féminin, bibliophile, parce que c'est un public qui va aimer l'objet tout autant que le texte.
Oui.
C'est bien ça ?
Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui lisent de la romance qui, justement, préfèrent acheter les livres en grand format et en édition reliée plutôt que d'attendre d'avoir le poche. Et il y a aussi un effet de vouloir connaître la suite tout de suite. Et c'est souvent en fait que les gens préfèrent du coup avoir la version, une belle version, pouvoir l'afficher dans sa bibliothèque. C'est aussi un objet vraiment de collection.
Et de décoration ?
Ah oui.
Ouais. Et alors, selon vous qui en lisez régulièrement, pourquoi est-ce que ce sont les jeunes femmes qui sont le plus attirées ? Peut-être une question bébête, mais...
Je pense qu'il y a quand même une question un petit peu de stéréotype. On associe encore beaucoup la romance, du coup, aux filles. Et on pense encore maintenant, aujourd'hui, que c'est un genre qui est surtout destiné, du coup, aux jeunes femmes. Et on va avoir tendance encore à juger si un jeune garçon lit un livre de romance. Et les livres sont surtout écrits à destination des jeunes femmes. C'est souvent le personnage principal et souvent... une jeune femme en détresse ou pas, mais ça reste quand même le personnage principal et souvent elle va être sauvée par le garçon.
D'accord, ok. Donc pour résumer cette première partie d'émission, La romance est un genre littéraire à part entière, oui, qui a ses propres codes, on les expliquera un petit peu, qui a son propre jargon littéraire, qui s'adresse à un public cible très bien identifié par les maisons d'édition. D'ailleurs, maintenant, énormément, mais quasiment tous les groupes éditoriaux ont leur label romance. Attention, on ne dit pas collection, on dit label. Donc ça, c'est aussi... pour des libraires, c'est, voilà, ça change très très vite. C'est depuis 2021, c'est devenu un livre-objet avec des spécificités propres à son genre et on va développer un petit peu tout ça en deuxième partie. Je vous laisse écouter la musique, le petit morceau choisi par, par Mathilde.
C'est terrible, c'est affreux.
Quoi ?
Et il se moque de tout.
Qui ?
L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux.
Oh.
Sous les diamants des étoiles, quel magique univers! Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air.
Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée.
Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur.
S'enfuit vers leurs rêves ce soir, dans leur folle ronde.
Si notre ami nous dit au revoir,
nous serons seuls au monde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à nouveau. Nous parlons de new romance et de romance, pardon, je me reprends puisque j'ai appris quelque chose en première partie d'émission. Nous parlons de romance aujourd'hui en compagnie de Mathilde Dizière, donc, qui est actuellement stagiaire à la librairie et qui termine donc son master métier du livre et de l'édition à Montpellier. Merci encore d'avoir accepté de co-construire cette émission, Mathilde. Donc nous avons évoqué la romance, défini la romance en première partie, évoqué les principaux aspects en général, hein, c'est vraiment pour défricher un petit peu tout ça. On a vu qu'il y avait plusieurs sous-genres, donc la new romance, la romance contemporaine, et quels sont les autres sous-genres ?
Alors, il y en a énormément, je pourrais vous en citer beaucoup.
Le plus possible.
Je vais vous parler de quelques-uns en particulier. Du coup, on a déjà évoqué tout ce qui est romance contemporaine, donc qui est en fait une romance qui est écrite pour être le reflet de la société dans laquelle elle est écrite. Oui. C'est-à-dire c'est le reflet de la société au moment où la romance est écrite. Donc, par exemple, on va avoir tout ce qui est la collection blanche, par exemple, ça en est. Et c'est le genre qui est le plus répandu et qu'on peut trouver un petit peu partout, en fait. Après, on a aussi évoqué, par exemple, la romance historique,
oui,
qui a été inventée, du coup, par Georgette Heyer. Et là, c'est une romance du coup qui est construite dans un cadre historique qui est assez précis, mais l'histoire en fait va pas prendre le pas sur la romance et elle va vraiment servir seulement de cadre. Donc voilà, par exemple, bah, du coup, Georgette Heyer, elle a écrit notamment Regency Bach, qui est écrit dans le cadre de la Régence anglaise. Donc voilà.
C'est traduit en français ?
Oui.
Ouais. C'est sous ce titre-là aussi ?
Alors, il me semble, oui.
Ouais. C'est, là aussi, il y a beaucoup de titres du rayon romance qui sont finalement des titres non traduits, qui sont en anglais. Notamment, je pense à Colleen Hoover. Est-ce qu'on peut dire que Colleen Hoover, c'est de la romance contemporaine ?
Alors, oui, complètement. Par exemple, ces titres sont traduits, mais je pense par exemple à Jamais plus ou à Tout jamais, qui, oui, complètement s'inscrivent dans une romance contemporaine, puisque c'est à l'époque d'aujourd'hui, avec des problématiques d'aujourd'hui.
D'accord, ok. Et donc après, on a dit romance historique, et ensuite ?
Alors, il y a aussi deux catégories qui font énormément parler d'elle en ce moment, à savoir la romantésie, qui donc est un mélange entre la romance et la fantasy. Donc on va voir toutes les caractéristiques finalement de la romance, donc une histoire d'amour qui va être très très présente au sein du roman, et également en fait des éléments de fantasy. Donc par exemple, qui sont assez connus, on a la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, ou alors Force Wing, du coup, de Rebecca Yarros, qui en font partie.
D'accord.
Et qui fait énormément parler et qui est assez, pas problématique, mais...
Sulfureux.
Ouais. La dark romance. Alors, là, ça va être littéralement romance sombre, donc avec beaucoup de disclaimers au début, puisque ça concerne surtout des... On considère qu'il y a deux grandes catégories du coup de dark romance, à savoir la dark romance sur tout ce qui est famille de mafia, en rapport avec la mafia, etc.
D'accord.
Et les dark romances avec des relations du coup qui sont considérées comme malsaines.
D'accord.
Où il y a de la violence, ce genre de choses.
Donc dark romance, ça ne pas confondre avec littérature érotique.
Oui.
Puisque c'est pas parce qu'il y a des scènes explicites qu'on est sur de la littérature érotique, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. La dark romance, c'est vraiment où il y a de la maltraitance, où c'est vraiment, vraiment malsain, quoi. C'est
revendiqué comme ça, comme étant cette littérature-là,
c'est ça.
Et avec une relation qu'on pourrait dire, une relation toxique, mais où il y a une relation de domination, de maltraitance, d'enfermement, de violence psychologique, physique, Et donc, c'est vendu tel quel par les éditeurs, par les autrices, puisque là aussi, ce sont des autrices. Est-ce qu'il y a vous avez cité, je crois, une autrice qui était connue ou pas encore sur Dark Romance ?
Non. Alors, en Dark Romance, par exemple, on a de Sarah Rivens, qu'on a Captive. Et c'est une littérature qui fait beaucoup parler d'elle, puisque comme elle s'est démocratisée, s'est posé le problème, en fait, de... des jeunes filles voulaient, en fait, en lire, sauf que... Eh bien, ça a posé problème parce que c'est pas du tout adapté à leur âge. Et
jeune fille, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire jeune fille avant 15 ans.
D'accord.
Et même pour certains, pas avant 18 ans, je pense.
Ouais, d'accord. Donc, pas adapté, non pas parce qu'il y a des scènes de relations sexuelles ou qu'il y a des scènes amoureuses plus, pas adapté pour encore d'autres raisons.
Oui, vraiment parce que... en fonction de l'âge et vraiment, il faut avoir un niveau de lecture qui est assez haut pour pouvoir comprendre que ça reste de la fiction et que, en fait, c'est des relations qui ne sont pas normales dans la vie de tous les jours et que ce sont des relations qui ne sont pas acceptables et qu'on ne peut pas accepter dans sa propre vie. Donc, il faut vraiment arriver à faire...
La part des choses, c'est ça ?
C'est ça, voilà.
Ouais, entre ce qu'on lit et ce qu'on attend d'une réelle relation entre deux personnes dans la vie quotidienne.
C'est ça.
C'est l'idée. Et a priori, alors après en librairie, c'est vrai que c'est compliqué. Que doit faire le libraire dans ce cas-là ? Alors nous, à la librairie, on a mis la dark romance tout en haut. Alors, déjà, on n'en a pas beaucoup, on a peut-être une sélection de 15 ou 20 titres. Mais vraiment inaccessible, même moi je n'y arrive pas. Voilà, je suis trop jeune pour la dark romance. Et on a mis tout ce qui est romance un peu plus soft, beaucoup plus accessible, puisque effectivement on a remarqué que c'est souvent lu par des jeunes filles. Mais au-delà de ça, est-ce que le libraire doit interdire la lecture d'un ouvrage ?
Alors, c'est, en fait, c'est une question qui est assez délicate parce que, à la fois, ça va dépendre un petit peu de l'âge, puisque du coup, on ne peut pas interdire à une personne d'acheter un livre et de le lire parce qu'on ne peut pas savoir non plus. Il y a certaines personnes qui sont plus avancées en termes de niveau de lecture aussi.
De maturité intellectuelle ou émotionnelle.
Donc, en fait, c'est dur de juger, mais il faut être là pour vraiment prévenir de ce qui peut arriver, en fait, d'être là en rôle de prévention, de dire bah, ça c'est de la dark romance, attention, ça peut affecter les personnes qui sont sensibles. Et voilà, et aussi le dire par exemple aux parents qui accompagnent leurs enfants, qui ne se rendent des fois pas compte de ce que leurs enfants achètent, et vraiment être là pour accompagner.
Oui, faire de la prévention, de la pédagogie, et de l'accompagnement, en effet, je pense que c'est le meilleur mot.
Ouais.
Donc on a vu new romance, romance historique.
Oui.
Romantasy, c'est
oui.
ça ? Et dark romance.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a un cinquième sous-genre principal ?
Ah ben,
on a vu les quatre.
Il y en a plein d'autres après qu'on a aussi évoqué. Par exemple, il y a la new romance du coup qui est beaucoup développée, donc qui va être plutôt à l'attention des jeunes lecteurs là.
D'accord.
Plutôt.
Donc c'est ce que nous on mettrait en sentimental un petit peu.
Oui.
C'est ça. Donc la littérature de romance, c'est un genre littéraire qui comprend des sous-genres, qui comprend aussi un jargon, donc pour les professionnels, mais les lectrices l'utilisent tout autant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce jargon particulier ?
Bah oui, tout à fait. Donc en jargon très particulier, en fait, on va surtout avoir ce qu'on appelle les tropes, qui sont du coup en fait ce qu'on appelle le schéma narratif récurrent en fait, mais soit par rapport à l'intrigue, au lieu ou au personnage en fait. Donc on va avoir par exemple en trope, on va avoir par exemple tout ce qui sont les tropes de situation. Mm-hmm. Donc par exemple on va avoir le fake dating, donc les faux rendez-vous, le mariage arrangé.
D'accord, donc poser un lapin, ça va faire partie des attendus des lectrices qui vont vouloir lire un roman avec un trope. Fake dating, c'est ça ?
Alors, fake dating, c'est plutôt, en fait, un faux date, j'allais dire. En fait, ils font semblant d'être ensemble.
D'accord, pardon. Je vous laisse continuer à expliquer.
Donc, il y a aussi tout ce qui est mariage arrangé, par exemple. Donc, on l'a typiquement, par exemple, dans un des seasons de Morgan Moncomble, où les personnages décident de se marier ensemble pour des raisons économiques. Voilà. On peut aussi avoir la cohabitation. Donc, du coup, par exemple, pendant le Covid ou ce genre de choses, ils ont décidé de se mettre ensemble. On a aussi tout ce qui est les tropes de personnages. Donc, avec, par exemple, le personnage du parent solo.
D'accord.
Revenir, qui est marrant, celui du Golden Retriever. Donc ça va être pour qualifier les garçons très solaires, gentils, un petit peu comme le Golden Retriever qui est très gentil, solaire.
D'accord.
Voilà. Et on a aussi tout ce qui est les tropes un petit peu plus de situations, mais vraiment particulières. Donc avec, par exemple, le Only One Bed. Donc voilà, un seul lit, mais pour une nuit, ils partagent un lit, ils n'ont pas le choix.
D'accord, voilà. Et ça devrait bien se passer.
Oui.
Donc ça, ce sont des schémas narratifs récurrents qu'on va retrouver dans différents romans, mais qui seront quand même différents, qui vont tous se ressembler en deux mots.
Alors, c'est une grande catégorisation, mais en fait, chaque histoire développe ce trope comme elle le souhaite. Donc là, c'est plus des arguments de vente pour que les lecteurs puissent, s'ils le veulent, lire à chaque fois des romances qui leur correspondent,
okay.
En fait.
Ok, ok. Et je crois que pour terminer cette émission, vous avez un conseil lecture pour nos auditrices et nos auditeurs.
Alors oui, tout à fait. Bah, justement, en parlant de tropes, est sorti récemment le livre Tropes, les secrets d'écriture de la romance et de la romantésie, donc de Alice Doublier, aux éditions Bragelonne.
Ok, et qu'est-ce qui est bien dans cet ouvrage ?
Alors, il vient décortiquer 50 tropes qui sont très récurrents et présents dans la romance, en fait.
Okay.
Notamment avec des autrices best-sellers de ce milieu qui vont les expliquer.
Au top, donc n'hésitez pas, le livre est disponible à la librairie, il est conseillé par Mathilde. Merci beaucoup pour ce temps, on a fait qu'effleurer les choses, il y avait énormément d'autres sujets à aborder, peut-être une prochaine émission. Merci à tous et à bientôt sur Les Pluches Libres.
L'épluche livre.
Alors, vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre.